The man recognized as pound for pound and ounce for ounce, boxing's ultimate blood and guts champion, the former junior lightweight champion of the world, Arturo Thunder Gatti.
Évidemment, c'est voilà maintenant 10 ans que Arturo Gatti était retrouvé sans vie le 11 juillet 2009. Excusez l'erreur, évidemment pour le 11 juillet, mais Arturo Gatti a marqué la scène de la boxe, a marqué un public incroyable, a marqué Atlantic City. Jérémy Filosa est un copain d'enfance d'Arturo Gatti et par la suite, il a été de près dans cette aventure suite à son décès. Il est avec nous. Salut Jérémy.
Salut.
Bon, OK, 10 ans Arturo Gatti. Ce fut une aventure incroyable. Sincèrement, je ne sais pas par où commencer, mais ce fut une aventure incroyable. Dans le ring, son après-carrière, son décès, après le décès. Ouais. J'ai l'impression qu'Arturo Gatti a été un spectacle toute sa vie.
C'est vrai, c'est vrai. Écoute, Arturo et son frère Joe se sont lancés dans la boxe lorsqu'on était très jeunes. En fait, bon, vous le savez, sa sœur qui était à l'époque mariée avec Dave Hilton, et c'est un peu Dave Hilton qui a amené les petits frères Joe et Arturo vers la boxe. Et premièrement, c'est Joe qui s'est lancé vers la boxe. Et on regardait Joe, nous on était un peu plus jeunes, puis c'était comme une idole parce que Joe avait réussi lui aussi à se créer une carrière de boxeur. Et ben Arturo, lui, suivait dans ses pas, mais à cette époque-là, on pouvait pas s'imaginer, nous, Arturo c'était plus un gars de notre génération, qu'il pouvait atteindre des sommets encore plus élevés que ceux de Joe, que ceux de Dave, puis qui s'en irait vraiment dans une autre stratosphère pour finalement déménager aux États-Unis parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'opportunité ici pour devenir un boxeur de ce calibre-là et devenir la première grande vedette de l'émission de boxe de HBO de l'époque. C'est avec Arturo Gatti qu'ils ont lancé un peu le nouveau programme de boxe qu'ils avaient à cette époque-là. Et non, écoute, moi, je vais me souvenir toute ma vie de la première fois que j'étais allé à Atlantic City voir Arturo et de traverser la longue route là, qui amène vers Atlantic City et voir l'immense panneau avec la face de mon chum dessus. J'en revenais pas, j'avais la mâchoire à terre et c'est vraiment seulement en arrivant à Atlantic City que je me suis rendu compte à quel point il était immense là-bas parce que il faut comprendre qu'à l'époque, là, même les pay-per-views, c'était très compliqué ici. Il fallait aller dans des bars, dans des restaurants, il fallait avoir une genre de soucoupe pis tout ça. C'était pas aussi simple que juste commander ça sur ta télévision à la maison. Donc, nous, on le vivait ici à plus petite échelle, mais une fois rendu là-bas, on se rendait compte à quel point il était grandiose.
Dans la vie de tous les jours, Jérémy Filosa, comment était-il Arturo Gatti?
Le fun. Le fun. Arturo, toujours le fun. Voulait toujours avoir du fun, avoir du plaisir. Écoute, il ne manquait jamais de nous avertir d'avance lorsqu'il revenait à Montréal pour qu'il puisse revoir ses copains. Aussi un gars très simple. Écoute, je vais vous le dire, là, Arturo Gatti, quand ma grand-mère est décédée et ma grand-mère habitait juste en arrière de chez lui, ça s'adonnait qu'il était à Montréal. Ça a été le premier à traverser la porte au salon funéraire pour venir me serrer la main et me souhaiter les sympathies. Je vais toujours me souvenir aussi que c'était un athlète hors de l'ordinaire, pas seulement dans le monde de la boxe. Il gagnait à chaque fois qu'on jouait, peu importe si on jouait au hockey dans la rue ou quoi que ce soit. Je me souviendrai encore toujours que j'étais un jeune garçon. Puis, à un moment donné, on faisait des sprints dans la rue, on faisait des 100 mètres, et je pars, et je suis en avant de lui, et il reste à peu près, je sais pas moi, quelques enjambées, puis je suis comme, hey, je vais le battre, hey, je vais le battre. Et quelle ne fut pas ma surprise dans les dernières secondes de voir qu'Arturo a fini par me rattraper et a fini encore en avant de moi, puis je me suis dit, bon, ben je le battrai jamais. C'était le meilleur. Je me souviens de ma tante qui habitait à deux coins de rue de chez lui, qui habite encore là, d'ailleurs, qui me disait, ce garçon-là, elle quittait la maison à 5h30 du matin pour aller travailler dans une manufacture, et elle dit, je le croise à tous les matins, sans faute, à 5h30, en train de faire son jogging. Il avait une discipline hors de l'ordinaire.
Jérémy, évidemment, ça c'est le côté sportif, mais il y avait certains démons également, Arturo Gatti, c'est ce qui a amené peut-être la suite des choses de façon plus négative. Ça a été un problème. Il a été un roi dans l'arène, évidemment. À l'extérieur, par moments, c'était plus complexe.
Oui, ben écoutez, Arturo, c'est un gars qui aimait quand même sortir, faire la fête, prendre un coup avec ses chums, des fois la fin de semaine, des fois même la semaine, il nous appelait, « Hey, ça te tente-tu de sortir? » Ouais, c'est là, c'est mardi soir, puis là, demain, bon, faut que je travaille, fait que bon, je vais passer mon tour. Et les démons les plus difficiles qu'il y a eu à surpasser, je te dirais, sont venus à la suite des défaites, notamment contre Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather. Ces deux défaites-là, il les a pas avalées, puis je vous dirais qu'il a un peu dérapé. Puis je me souviens qu'il me disait, il avait peur de ce que les gens allaient penser de lui, tu sais, qu'il avait perdu contre ces deux légendes-là, et on essayait de lui expliquer, Arturo, les gens t'adorent, t'es un dieu, les gens sont juste contents de venir te voir, de te serrer la main, de prendre une photo, mais lui, dans son patelin ici, il avait peur de mal représenter ses amis, ses cousins, sa famille, ses voisins. Puis ces deux défaites-là, il a eu bien de la misère à les avaler. Puis ça l'a amené malheureusement à consommer à cette époque-là. Heureusement, il a été capable de passer par-dessus la consommation de drogue. Ça, on en a été très, très, très heureux. Mais c'est vrai qu'il se mettait beaucoup de pression sur les épaules. Puis il se rendait pas compte à quel point les gens l'adoraient pour qui il était et tout ce qu'il avait accompli. D'ailleurs, il est rentré au temple de la renommée de la boxe à sa première année d'éligibilité. C'est quand même assez extraordinaire.
Mais les combats contre Mickey Ward ont été assurément, une trilogie incroyable. Ça fait partie encore des meilleurs moments de la boxe. Les coups qu'Arturo pouvait recevoir, les coups qu'il pouvait donner, mais il y a eu un respect mutuel entre les deux boxeurs.
Ah, définitivement. Écoute, la photo, les gens peuvent la chercher sur Google où on voit Arturo et Mickey Ward dans l'hôpital, dans la même chambre, hein, parce que les deux se sont rendus à l'hôpital après leur combat, tellement il avait été brutal, mais ils ont demandé d'être placés dans la même chambre. Et Arturo qui demande à Mickey Ward, « Mickey, je t'ai pas trop magané, j'espère. » Puis Ward qui dit, « Garde, non, ça va aller, c'est bien correct. » Puis écoute, Mickey Ward et Arturo sont demeurés de bons amis. D'ailleurs, Mickey Ward était dans le coin d'Arturo Gatti après ces combats-là, pour la fin de la carrière d'Arturo. Mickey Ward est venu à Montréal pour les obsèques d'Arturo Gatti. Donc, moi, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé de mon ami Arturo, c'est que c'était pas du gros parlage dans les conférences de presse, puis t'es un pourri, puis t'es un pas bon, puis je vais te faire mal. Puis non, c'était énormément de respect pour ses adversaires. Pour lui, la boxe, c'était un sport. C'était pas une façon de faire mal à quelqu'un. D'ailleurs, il a refusé à plusieurs reprises. On s'en souvient, Yvon Michel qui voulait organiser un combat avec Dave Hilton, et il a refusé à plusieurs reprises parce qu'il s'est dit « Non, jamais je vais permettre à ce gars-là de faire de l'argent sur mon dos. De toute façon, si je m'en vais dans le ring contre lui, c'est pas pour une compétition sportive, mais ça va être plus personnel. » Donc, moi, c'est ce que j'appréciais d'Arturo Gatti, c'est que rarement il se laissait emporter en conférence de presse et ça demeurait toujours extrêmement respectueux avec ses adversaires.
En terminant, Jérémy, t'imagines si Arturo Gatti avait pu évoluer dans le système de boxe qu'on a mis en place au Québec aujourd'hui, ce qu'on a vu, entre autres, avec Lucien Bouté, ce gars-là aurait pas eu besoin de s'exiler du côté d'Atlantic City.
Oui, ben c'est vrai. Puis malheureusement, c'est arrivé un peu trop tard pour Arturo. Il est revenu à Montréal, livré un combat seulement. On s'en souvient, la Gatimania, organisée par Yvon Michel à l'époque. Mais nous, on a trouvé ça plate parce qu'on a perdu notre ami pendant plusieurs années. Il était parti au New Jersey. Il était loin de nous. On le voyait peut-être une ou deux fois par année lorsqu'il revenait ici. Mais il y a eu une déconnexion. Puis c'est plate un peu parce que nous, ses amis... quand je reparle à ceux qui l'ont bien connu, qui ont passé plusieurs années autour de lui, on est tous convaincus que si Arturo était demeuré ici et qu'il était resté en contact avec ses amis, un groupe qui est encore très tissé, serré aujourd'hui, qu'il n'en serait pas arrivé là, malheureusement. On pense qu'on aurait pu mieux l'encadrer. Mm-hmm. Ses amis étaient là pour essayer de l'aider, mais quand t'es loin, puis on sait pas ce que tu fais, puis on sait pas dans quel état tu es, puis avec qui tu tiens, c'est difficile pour nous à distance d'essayer d'aider un gars là.
Jérémy, écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. C'était fort intéressant, ces histoires avec ton ami Arturo Gatti. Merci, Jérémy.
Ça me fait plaisir.
Merci. Salut. Au revoir. Maintenant, parlons avec Jean Lefebvre de Cogeco Nouvelles qui est avec nous. Des détails sur les orages violents, Jean?
Oui, ben il y a des alertes d'orages violents qui sont toujours en vigueur pour la Montérégie et la Naudière. Maintenant, les orages se déplacent et il y a également une alerte d'orages violents pour la Mauricie. Pour les régions de Montréal, Laval et les Laurentides, on est en veille d'orages violents, donc on n'est plus en alerte d'orages violents. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous rappelle que ces orages peuvent produire des rafales de vent très fortes, de la grêle, de la pluie forte. Et à 19h, il y a 43 minutes de ça, 106 000 clients d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité, dont 35 000 en Montérégie, plus de 20 000 dans la Naudière, plus de 17 000 à Montréal, plus de 15 000 en Outaouais et plus de 14 000 à Laval. Et on dit aux auditeurs, si vous avez à prendre la route, soyez prudents.
Évidemment, on écoute ta mise à jour dans une quinzaine de minutes lors du bulletin de nouvelles. Jean Lefèvre de Cogeco Nouvelles, merci d'avoir été avec nous. Et également, je vous invite, messagerie texte 98985, si ça brasse dans votre coin, ça change de place. Mais on est là, à la grandeur du Québec, si ça brasse dans votre coin, on veut avoir des détails. Messagerie texte 98985.